France Inter.
Bonjour à tous. Au sommaire de ce vendredi 26 avril, quand l'IA permet aux sourds et malentendants de dialoguer, l'intelligence artificielle débarque dans la langue des signes. France Inter l'a expérimenté en avant-première. Est-ce une façon d'enfouir le problème ou l'une des solutions? La France va tester dès l'an prochain le stockage de CO2, le carbone sera sous terre. Le climatologue Jean Jouzel y voit seulement une solution à petite dose. Sciences Po Paris occupé par les étudiants pro-palestiniens, Inès soutient le mouvement.
On est une école où l'engagement étudiant est encouragé. On est une école de sciences humaines et sociales, donc il est normal que les étudiants se mobilisent. Mais il y a certainement une sensibilité différente du fait qu'il y ait davantage d'étudiants internationaux à Sciences Po que dans d'autres universités.
Et nous verrons pourquoi effectivement le mouvement parti des États-Unis prend particulièrement dans cette école. Le char du futur franco-allemand, après 7 ans de négociations, un pré-prototype va être lancé. Dans ce journal aussi, Rachida Dati qui se défend pour la première fois sur les 800 000 euros perçus de la part d'Orange à l'époque où elle était avocate et députée européenne. Une tique surveillée de près du côté de la Corse, elle peut transmettre le virus de la fièvre hémorragique. Un repas gastronomique gratuit, mais à condition de donner votre sang. Ça se passe en Alsace. Et le nouvel album de Justice, Hyperdrama, un retour électro réussi et éclectique. Après 13h30, le rendez-vous de la médiatrice de Radio France, avec un gros plan sur le travail difficile de nos journalistes sur les terrains de guerre. Elle sera en duplex avec Kiev, Moscou et Jérusalem. La fin du feuilleton de la semaine sur la Seine. Le fleuve au lieu des JO était déjà un haut lieu de festivité dès le XVIIIe siècle. La fête et les performances, dans C'est la France, Clémentine Blondet du quotidien L'Équipe nous emmène à Nantes, ville de sport. Enfin, bon moment, c'est le titre que le rappeur Franglish a choisi dans C'est une chanson. Il sera au micro de Frédéric Pommier. Soyez les bienvenus, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
France Inter.
Et pour commencer, quand l'intelligence artificielle vole au secours des personnes sourdes ou malentendantes, c'est une petite révolution et c'est une information France Inter. Ives, Soprasteria et IBM viennent de créer un premier logiciel qui permet d'interpréter la langue des signes et de la reproduire pour une conversation interactive. Bonjour Manon Derdevet.
Bonjour.
Alors l'avatar s'appelle Iris, il a été dévoilé hier dans l'innovation studio d'IBM à Bois-Colombes en région parisienne et vous l'avez testé Manon.
Oui, l'utilisateur se place face un grand écran horizontal équipé de caméras capables de détecter et analyser les signes. Face à lui, un avatar en 3 dimensions. La conversation peut démarrer.
Donc je vais dire bonjour à Iris. Je signe bonjour et elle me demande en quoi elle peut m'aider. Donc je vais lui signer que j'ai un problème de livraison. Je veux savoir où est mon colis. Je signe les chiffres. Elle me répond qu'il va arriver demain entre 10h et 12h.
L'intelligence artificielle interprète les signes et génère une réponse en langue des signes. Un outil développé avec l'aide de personnes sourdes et malentendantes et salué par Jérémy Beauroy, président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Dans beaucoup de situations où on est complètement démunis, il faut que l'intelligence artificielle nous permette de retrouver cette autonomie. Il faut vraiment qu'on puisse l'encourager, le développer, l'appuyer. C'est fondamental.
Cette intelligence artificielle est déjà accessible sur différents sites internet comme celui du groupe Orange et peut être aussi utilisée sur tablette ou mobile. Iris fait partie des nouvelles technologies présentées au salon VivaTech, le plus grand salon de la tech en Europe à la fin du mois de mai et ça se passera à Paris.
Manon Derdevet, vous pouvez retrouver des images de cet avatar sur franceinter.fr. Ça aussi c'est de la technologie moderne au service du climat cette fois. La France s'est donné 10 ans pour diviser par 2 ses émissions de CO2 industrielles. Alors, il s'agit surtout de remplacer le charbon, d'électrifier au maximum les usines, mais pas seulement. La France entend désormais stocker du CO2, entre autres dans d'anciens gisements pétroliers. Le ministre délégué à l'industrie, Roland Lescure, lance aujourd'hui un appel à manifestation d'intérêt pour des projets d'enfouissement de CO2. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Alors, stocker le CO2, de quoi s'agit-il ?
Eh bien, de gaz carbonique aspiré quasiment à la sortie des usines. On parle là des sites les plus polluants, cimentiers, industrie sidérurgique. Gaz aspiré par des sortes de ventilateurs équipés de filtres, puis liquéfiés, transportés. C'est la visite que le ministre est en train de faire en ce moment même à Sens, dans Lyon, avec une entreprise spécialisée sur le sujet. Et puis l'objectif, c'est ensuite de réinjecter ce CO2 dans des cavités sous terre. Alors jusqu'ici, on parlait plutôt, Christelle, de cavités géologiques. Un potentiel a été identifié notamment en mer Méditerranée, en plus de la mer du Nord dont on parle souvent. Mais le gouvernement mise aussi désormais dans l'Hexagone sur d'anciens sites d'hydrocarbures. Vous l'avez dit. dit, déplété. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont des sites de gaz ou de pétrole qui ne sont plus exploités, et qu'il va falloir remettre en pression et dans lesquels on pourrait donc réinjecter ce gaz sous une forme que les spécialistes nomment supercritique, c'est-à-dire mi-gazeuse, mi-liquide. Ces sites existent autour de Bordeaux notamment ou dans l'est de la région parisienne.
Alors, stocker le CO2, d'accord, mais en quelle quantité, Claire?
Eh bien, les experts du Bureau de recherche géologique et minière parlent d'un potentiel assez énorme, au global de 800 millions de tonnes de CO2 stockables dans les prochaines décennies. L'exécutif mise dans les prochaines années, d'ici 2030, sur l'enfouissement de quelques millions de tonnes seulement, mais c'est déjà beaucoup. Et le calendrier, on le comprend donc ce matin, va s'accélérer. Appel à candidature, entre guillemets, pour les entreprises jusqu'à juin, et phase de test cet automne. Test sur la faisabilité, l'efficacité de ce stockage. On pense notamment à la question d'éventuels risques de fuite. Mais la France, note les experts, stocke déjà du méthane, dont les fuites, elles, sont considérées comme bien plus dangereuses.
Claire Chaudière, il ne faudrait pas que cette technologie soit seulement un prétexte pour continuer à polluer. Pour le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC, c'est une solution à utiliser à dose homéopathique.
Disons, le diagnostic du GIEC est très clair. Nous n'arriverons très probablement pas à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans la seconde partie de ce siècle si nous n'utilisons pas de piégeage et stockage du CO2. Mais le GIEC dit également que ce n'est pas une solution, disons, extrêmement intéressante. Ce qu'il faut, c'est en limiter l'usage au maximum. Vraiment, il faut en faire le minimum et mettre la priorité sur la diminution des émissions. C'est cela qui est important. Le risque, il est quand même d'abord de donner cette idée que nous avons des solutions miracles, et ce n'en est pas une, parce que ça ne pourra jouer que sur une petite fraction de nos émissions de toute façon. Il y a quand même un égoïsme de nos générations. Nous mettons le gaz carbonique dans l'atmosphère, je dirais, sans trop compter, et puis nous demandons à nos enfants et nos petits-enfants de pomper le CO2 que nous mettons dans l'atmosphère aujourd'hui. Enfin, voilà, donc il y a aussi un problème éthique. Ne serait-il pas plus judicieux de limiter au maximum les émissions? C'est ce que nous souhaitons en tout cas.
Jean Jouzel, interrogé par Sandy Dauphin. Total Energy, toujours plus fort. Le groupe a enregistré un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars au premier trimestre. Il améliore encore ses résultats de 3% sur un an grâce au prix du pétrole et aux marges sur le raffinage. À l'autre bout de la chaîne, côté consommateur, c'est de plus en plus difficile. Le cap du million d'interventions pour impayés a été franchi sur les factures d'énergie. Plus d'un quart a donné lieu à des coupures, d'après le médiateur de l'énergie. C'est tout simplement le niveau le plus élevé depuis la création de cette autorité en 2015. Les fournisseurs d'électricité et de gaz recourent le plus souvent quand même à des limitations de puissance plutôt qu'à des coupures fermes. Un espoir pour le groupe sidérurgique Ascometal, mis en vente par le groupe Swiss Steel. Il annonce avoir reçu des offres de reprise pour l'ensemble de ses 5 sites qui emploient en tout environ 1200 salariés. C'est le moment du bulletin de notes. Les agences de notation américaines Moody's et Fitch rendront leur copie ce soir sur la dette de la France. Alors que les mauvaises nouvelles se sont accumulées ces dernières semaines, une dette à 3 000 milliards d'euros, un déficit public plus important que prévu à 5,5% du PIB, une croissance plus molle à 1%. Alors AA- ou AA2-, et avec quelle perspective? Des notes déterminantes en tout cas pour les futurs taux d'emprunt de la France. À l'étranger, Rafah, ultime refuge d'1,5 million de Palestiniens de la bande de Gaza, menacés par une offensive d'Israël qui vise toujours l'éradication du Hamas. C'est le dernier bastion du mouvement islamiste dans le sud du territoire, à la frontière avec l'Égypte. De nouvelles brigades de l'armée israélienne ont été rappelées et les déplacés redoutent avec angoisse le début des opérations. Thibault Lefebvre est le correspondant de France Inter à Jérusalem.
Depuis quelques jours, les frappes israéliennes sont plus intenses sur Rafah.
La nuit dernière, il y avait des bombardements. Ils ont bombardé 3-4 cibles.
Alors Nabil et ses 3 enfants veulent quitter l'enclave au plus vite pour l'Égypte. 80 à 100 000 Gazaouis ont traversé la frontière depuis le début de la guerre, comme l'a déclaré hier l'ambassadeur palestinien au Caire.
Je ne peux pas rester. Je vais vivre, faire grandir mes enfants. Pour t'en sortir du Gaza, il faut payer 5 000 euros pour chaque personne. Vous voulez que je vends mes reins ou quoi? J'en peux plus.
Samira est-elle condamnée à rester à Rafah?
Tu sais, le problème, où c'est que mes parents sont vieilles, vieilles. Mon père, il a presque 90 ans. Je fais des prières pour qu'il n'entre pas à Rafah, parce que vraiment, c'est de la catastrophe.
Alors, elle a décidé d'attendre en famille l'offensive au sol israélienne dont elle entend parler depuis plusieurs semaines, mais qu'elle ne voit pas venir.
Jusqu'à maintenant, les choses ne sont pas claires. Les gens ici à Rafah, ils ne veulent pas bouger de Rafah. On attend que les Israéliens lance des décisions pour qu'on puisse trouver une autre place.
Avec pour le moment deux options sur la table, Khan Younes plus au nord où des tentes ont été installées, ou le camp d'Al-Mawasi au bord de la mer où des centaines de milliers de déplacés survivent dans des conditions sanitaires déplorables.
Thibault Lefèvre à Jérusalem pour France Inter. Le conflit qui s'exporte dans les campus américains face au risque de tension. L'université new-yorkaise de Columbia reporte l'évacuation des étudiants sur le site. Et en France, le siège de Sciences Po Paris a de nouveau été investi cette nuit par une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens. L'occupation se poursuit dans le bâtiment historique de l'école, soutenu par une manifestation rue Saint-Guillaume avec keffiyeh et drapeau palestinien. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Pourquoi ce mouvement prend-il particulièrement à Sciences Po Paris?
Eh bien, les étudiants s'inspirent de ce qui se passe dans les universités américaines, d'autant plus que Sciences Po Paris a un partenariat avec l'Université de Columbia, New York. L'une des dirigeantes du mouvement aux États-Unis a même étudié en France, comme le raconte Louise, étudiante en master et membre du comité Palestine de Sciences Po Paris.
Elle a fait le double diplôme entre Sciences Po et Columbia. Elle est à Columbia actuellement. Et il y a quelques-uns de mes camarades qui étaient en licence avec elle à Menton. Alors on a des liens très forts avec les organisateurs de Columbia.
Ici, 50% des étudiants sont internationaux et Sciences Po a beaucoup changé, dit Louise.
Il y a trop de gens qui essaient de dire que c'est une institution qui doit former la future élite de la nation. C'est plus le Sciences Po qu'on a aujourd'hui. C'est un Sciences Po qui est ouvert au monde. C'est un Sciences Po qui n'est pas juste pour former les hauts fonctionnaires de demain.
Ce que confirme un enseignant, Laurent Gaillet, directeur de recherche au CERI, le Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po.
Sciences Po, c'est une université qui est historiquement fortement politisée. Et par ailleurs, c'est une université qui a investi fortement dans son internationalisation ces dernières années. Ce qui veut dire un nombre significatif d'étudiants étrangers et par ailleurs des coopérations internationales, notamment avec l'Université Columbia. Donc tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis a évidemment des répercussions extrêmement importantes ici. C'est un élément d'une mobilisation globale, d'un soulèvement de la jeunesse mondiale.
On nous demande de nous intéresser au monde au cours de nos études, résume une étudiante. C'est normal de se mobiliser pour une cause qui nous touche.
Sonia Princey, la candidate de la France insoumise aux européennes, Rima Hassan, d'origine palestinienne, se rendra à Sciences Po Paris cet après-midi. La leçon de Xi Jinping au secrétaire d'État américain qu'il reçoit en ce moment. Les deux pays doivent être des partenaires, a dit le président chinois. Pas des rivaux, même si de nombreux problèmes subsistent. La terre est suffisamment grande pour que la Chine et les États-Unis puissent chacun se développer et prospérer. Fin de citation. Et puis TikTok n'est pas à vendre. La maison mère chinoise de la plateforme ByteDance n'a pas l'intention de céder aux injonctions des Américains. Rendre l'Europe plus souveraine en matière de défense, c'était l'un des axes du discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron hier. Les ministres de la Défense français et allemand sont à Paris pour évoquer concrètement le fameux char du futur. Il aura fallu 7 ans pour décider de qui va faire quoi entre les industriels des deux pays. Gwendal Lavina, comment vont-ils se répartir les tâches?
Le futur du char, dit même Sébastien Lecornu, le ministre français des armées, se dessinera main dans la main. C'est une répartition à 50-50 entre Paris et Berlin dans le financement, mais aussi dans l'exécution. 8 piliers sur les armes ou encore les systèmes de communication embarqués ont été définis. Et qui s'en chargera? Le ministre des armées.
Sur tel aspect, très franchement, on voit bien que des entreprises et allemandes et françaises peuvent le faire ensemble. Collide sur tel ou tel pilier des leaderships qui peuvent être purement nationaux, en fonction aussi de l'expérience industrielle ou tout simplement aussi du degré de maturité des technologies présentes de chacun des côtés de nos frontières.
L'accord signé ce matin est un jalon central, dit son homologue Boris Pistorius.
Nous voulons faire du MGCS une rupture technologique, signe de notre confiance mutuelle. Cet axe franco-allemand a la capacité de lancer de nouvelles dynamiques européennes dans l'industrie de défense.
Prochaine étape, la négociation des contrats avec les industriels engagés sur le projet et leur finition d'ici la fin de l'année. Un calendrier particulièrement ambitieux mais qui doit permettre le début de la conception d'un pré-prototype attendu vers 2030 avant l'arrivée sur les terrains du fameux char franco-allemand prévu pour 2040.
En Italie, la censure de l'écrivain antifasciste Antonio Scurati à la RAI et la télévision publique le week-end dernier ne passe décidément pas. Cette censure était même au cœur de l'anniversaire de la libération de l'Italie hier qui marquait la fin définitive du fascisme. Une grève est même annoncée à la RAI. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Rome. Bruno, l'écrivain était la star de la fête hier.
Oui, si l'idée était de faire taire Antonio Scurati, ben c'est raté. L'écrivain, auteur de livres référents sur Mussolini, était en effet la star de cette fête de la Libération. À Milan, il a lu le texte qu'il devait prononcer à la télévision, dénonçant le refus de Giorgia Meloni de se dire antifasciste.
Je crains que tant que cette parole antifascisme ne sera pas prononcée par ceux qui nous gouvernent, le spectre du fascisme continuera d'infecter la maison de la démocratie italienne.
Mise en difficulté par la censure de l'écrivain samedi dernier, la présidente du Conseil a publié un texte sur les réseaux sociaux avec la fin du fascisme. La Libération a posé les bases pour le retour de la démocratie. Nous redisons notre aversion pour tous les régimes totalitaires et autoritaires. Mais il n'y a pas trace de cette parole antifasciste, plus volontiers revendiquée par la gauche, mais que son ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, héritier de Berlusconi, a prononcé en rappelant que la constitution italienne était antifasciste. À la RAI, une enquête internet en cours pour savoir pourquoi et comment l'invitation de Scurati a été annulée. Et le principal syndicat annonce une grève le 6 mai contre le contrôle asphyxiant des journalistes et la volonté de réduire la RAI à un porte-voix du gouvernement.
Bruno Duvic en direct de Rome. En France, la ministre de la Culture Rachida Dati a évoqué pour la première fois ce matin ses honoraires chez Orange. Le quotidien Libération révélait cette semaine qu'à l'époque où elle était députée européenne, elle aurait par ailleurs reçu 800 000 euros comme avocate du groupe de téléphonie. Ça rappelle un peu le dossier Renault, 900 000 euros pour défendre Renault, époque Carlos Ghosn. Et elle s'est défendue ce matin sur RTL, Sarah Guibaudot.
J'ai toujours travaillé, commence Rachida Dati. Vous pouvez être parlementaire et avocate. Alors la ministre ne va répondre qu'à demi-mot sur ses honoraires chez Orange. C'est sur plus d'une dizaine d'années, dit-elle. Libération parlait d'un forfait annuel de 100 000 euros entre 2010 et 2018. J'ai évidemment des contrats qui sont légaux, maintient la ministre. Sur Orange, ses avocats ont opposé à Libération le secret professionnel et la justice ne pourra pas enquêter, car ils ont obtenu que la liste des clients de l'avocate Rachida Dati soit retirée du dossier Carlos Ghosn. C'est dans celui-ci que la justice s'est penchée sur ses contrats. Rachida Dati est mise en examen pour trafic d'influence et corruption. La justice la soupçonne d'avoir fait du lobbying au Parlement européen pour Renault, qui la rémunérait. Le parquet national financier dira dans les prochaines semaines s'il demande un procès. Rachida Dati utilise tous les moyens pour se défendre. Elle a multiplié les recours, cité à comparaître l'actuel président de Renault. Et ce matin, sur RTL, elle accuse Libération d'être subventionnée par la mairie de Paris. Les attaques nous semblent indignes de la fonction occupée par Rachida Dati, réplique la direction du journal et la Société des journalistes.
Inquiétude à Mayotte. 3 premiers cas de choléra autochtone ont été identifiés sur l'île de l'océan Indien. 10 cas importés, cela avait été recensé depuis un mois chez des migrants en provenance des Comores voisines. Une vaccination va être organisée dans la zone et un centre de dépistage va être ouvert. Dans l'Hexagone, le virus de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, endémique dans certains pays d'Afrique, des Balkans ou encore du Moyen-Orient, semble s'être installé. Il a été détecté pour la première fois à la fin de l'année dernière dans les Pyrénées-Orientales et plus récemment en Corse, à chaque fois dans des tiques. Alors chez l'être humain, ce virus entraîne le plus souvent une infection peu sévère, mais dans de rares cas, elle peut évoluer vers des formes graves. Les scientifiques le surveillent donc de près, Victor Dolande.
Ce virus est transmis par des tiques appelées yaloma. Pour se nourrir, ces acariens ont une préférence pour les bovins et les chevaux. Quand une tique infectée pique un animal, elle peut lui transmettre le virus. L'homme devient ensuite une cible si plus de tiques sont infectées, comme le confirme Sylvain Bèze, directeur de recherche à l'Institut Pasteur.
Si une tique infectée pique un homme, eh bien l'homme va être infecté par le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Donc évidemment, la présence de ce virus en France au sein des populations de tiques représente un risque évidemment majeur de transmission à l'homme, notamment sur les populations à risque qui sont les gens qui font des randonnées dans les zones où ces tiques circulent.
Donc oui, le risque de transmission à l'humain existe, mais pour l'instant, aucun cas n'a été recensé en France. Pour anticiper l'évolution de ce virus, il faut suivre le modèle de l'Espagne. Le virus est présent là-bas depuis plus de 10 ans et il existe chaque année 2 à 3 cas chez les humains. On peut donc s'attendre à la même évolution.
Il ne faut pas non plus dramatiser, on n'aura jamais une épidémie massive de Crimée-Congo en France. Par contre, effectivement, il faut redouter quelques cas régulièrement d'infection si le virus continue de se maintenir et il n'y a pas de raison qu'il ne se maintienne pas effectivement.
Il va donc falloir mettre en place des systèmes de surveillance pour anticiper les risques, repérer les cas humains et donc mieux sensibiliser les médecins aux symptômes de cette maladie qu'ils ne connaissent pas encore.
Quant à la méningite face à la recrudescence de la maladie, la vaccination actuellement obligatoire pour les nourrissons sera élargie au début de l'année prochaine. Donnez votre sang, l'établissement français du sang sonne régulièrement l'alerte. Et pour convaincre les donneurs potentiels, il faut parfois aussi les appâter. Ainsi, à Rosheim, dans le Bas-Rhin, la traditionnelle collation d'après-don a été remplacée par un repas gastronomique préparé et offert par Hubert Metz, le chef du restaurant gastronomique Rosenmeier. Et l'amicale des donneurs de sang, Olivier Fogel, a fait ça le comble.
Au rez-de-chaussée, les donneurs de sang comme Emmanuel.
Étant originaire d'ici, donc je me suis dit, ça tombait bien. Il y a eu pas mal de pubs par rapport à ça, donc un petit plus, et voilà.
Au sous-sol, dans les cuisines, Hubert Metz et son équipe s'activent.
Ils vont se régaler avec un œuf cuisson parfait, avec un saumon façon parisienne, une volaille alsacienne avec une purée à l'ail des ours, et une crème brûlée fraise rhubarbe. Je pense que chacun dans sa vie aura peut-être besoin de la médecine ou de sang, et voilà.
Entrée, plat, dessert commencent à garnir les tables quelques minutes plus tard. On retrouve Emmanuel.
Oh, merci. Visuellement, ça a l'air déjà plutôt bien. Donc maintenant, on va le goûter, on verra ce que ça va donner. Bon, c'est intéressant, il y a un peu d'eau, mais c'est très bien. Ça se mange bien.
Plus de 110 réservations hier soir, sans parler des donneurs qui n'ont pas pris rendez-vous, alors qu'habituellement, l'amicale des donneurs de sang de Rosheim totalise moins de 80 personnes par collecte. Béatrice Jost, la présidente de l'amicale, a donc le sourire.
Ça attire du monde. On se rend compte qu'un bon repas, ça marche.
Avec la baisse de dotation de l'EFS, l'établissement français du sang, l'amicale n'a plus que 3 euros par collation, 4,20 euros auparavant. Elle est donc contrainte de trouver des solutions comme celle d'hier soir pour ne pas servir qu'un croissant et un café comme dans les autres régions.
Un reportage d'Olivier Fogel de France Bleu Alsace. Et puisqu'on est un peu à table, parlons de vin. La production mondiale a pris un coup sur la carafe l'an dernier, une chute de 10%. En particulier en Italie et en Espagne. Elle a en revanche progressé de 4% en France, d'après l'Organisation internationale du vin. La France redevient le premier pays producteur au monde avec une production de 48 millions d'hectolitres, Pierre Amparan.
Grâce à une récolte en hausse de 4%, les viticulteurs français détrônent les Italiens de leur place de numéro 1 mondial. Ils les devancent de 10 millions d'hectolitres et l'écart monte même à 20 millions avec les Espagnols, pourtant eux aussi habitués au podium de tête. Cette performance française s'explique par les mauvaises conditions climatiques qui ont pénalisé les autres pays. Sécheresse, vagues de chaleur, incendies, gel précoce ou encore maladies liées aux fortes pluies. La production mondiale a ainsi chuté à son plus bas niveau depuis 1961. Le dérèglement climatique n'explique pas tout, mais représente le plus grand défi, selon l'Organisation internationale du vin. L'autre baisse qui inquiète le monde du vin, c'est la baisse de la consommation mondiale de 3% à cause de l'inflation, des changements de mode de vie, mais Portugais, Italiens et Français restent les plus gros buveurs.
Une inquiétude en revanche pour les vignerons, on boit moins quand même. La consommation a reculé de 3% et se retrouve au plus bas depuis 1996. C'est une tendance lourde. Pas de femmes grecques en robe colonnade, mais toujours ce souci de la tradition. La flamme des Jeux Olympiques, qui a déjà parcouru 5000 km en Grèce, sera remise ce soir à Tony Estanguet au stade d'Athènes, celui qui avait accueilli les premiers Jeux de l'ère moderne en 1896. C'est Nana Mouskouri qui interprétera les hymnes de la France et de la Grèce. La flamme, elle, embarquera demain matin à bord du Belém, le fameux trois-mâts, direction Massilia, autrement dit Marseille, où elle arrivera le 8 mai. Et puis à Paris, le Moulin Rouge, lui, compte bien avoir retrouvé ses ailes d'ici au JO. La reconstruction a déjà commencé, affirme le patron du célèbre cabaret. Elles ont le feu sacré. Le 15 de France féminin a pris ses quartiers à Bordeaux avant un ultime entraînement pour préparer son tout dernier match du tournoi des Six Nations, la finale face à l'Angleterre, première nation mondiale, et que les Bleus n'ont plus battu depuis 6 ans, 12 défaites de rang. Mais pas question de faire un complexe d'infériorité. Les Françaises l'ont répété tout au long de la semaine. Elles sont persuadées, Fanny Lechevestrier, de pouvoir gagner le crunch demain face aux Anglaises.
Pas évident, c'est vrai, d'y croire quand vous allez affronter l'indéboulonnable Première Nation mondiale, reconnaît la talonneuse Agathe Socha.
Moi, j'aimerais ça, l'an prochain, vous dire on est favori. Hein. Mais évidemment, ça reste le point noir des dernières années. Après, il n'y a pas de plafond de verre. Les Anglaises ne sont pas imbattables. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande l'a prouvé en finale de la Coupe du Monde.
Cela remonte à un an et demi. Depuis, plus aucune défaite. Avec des joueuses qui se connaissent par cœur, évoluant quasiment toutes dans le même club et surtout dans un championnat anglais professionnel. Mais en face, depuis 6 semaines, les Bleus ont travaillé d'arrache-pied et progressé notamment sur l'aspect mental, explique Marine Ménager.
Ça a été un de nos défauts. On est français, donc on prend tout très à cœur et on vit les émotions fois mille. Et aujourd'hui, avec le prépa mental, on a fait un gros travail dessus.
Et la trois quarts sont très persuadés aussi que le record d'affluence attendu demain à Bordeaux va leur permettre de hausser encore leur niveau de jeu.
D'avoir 22 000 personnes qui poussent derrière nous, on a l'impression d'être plus costaud, plus sûr. Donc ça va jouer un rôle important ce week-end.
Avec en tête que l'an passé, le 15 de France n'avait finalement échoué qu'à 5 petits points des Anglais dans un stade de Twickenham, garni par plus de 55 000 Britanniques.
Et quoi qu'il arrive, les Bleus auront déjà battu un record. 27 000 spectateurs sont attendus à Bordeaux demain soir. C'est inédit pour du rugby féminin et ça va pousser là aussi en tribune. Ils s'appellent Xavier de René et Gaspard Auger. Leur nom ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Justice, alors là vous connaissez forcément le duo électro. Après 8 ans d'absence, Justice revient aujourd'hui avec un nouvel album, Hyper Drama, qui alterne balades électroniques et morceaux plus nerveux. Mathieu Culeron les a rencontrés.
Plus organique, plus éclectique aussi, le nouvel album de Justice suscite de plus en plus d'intérêt. Avant même sa sortie, les concerts font le plein et leur prestation à Coachella n'est pas passée inaperçue. Gaspard et Xavier.
Il s'est passé 8 ans entre nos deux albums. 8 ans, parfois il y a des groupes qui se séparent et qui se reforment. Et peut-être que les gens ont l'impression d'assister à un réunion tour de Justice ou quelque chose comme ça.
On fait de la musique avec nos goûts en étant assez hermétique à l'époque.
Entre gabber, adouci et musique futuriste à l'Evangelis mais en plus radicale, Justice se dévoile de plus en plus, eux qui très vite se sont posé la question de la représentativité.
La Croix, c'est devenu le frontman du groupe.
Il vaut mieux préparer un peu le terrain en se disant voilà, on a ce symbole qui représente le groupe plus que nous et qui vieillira probablement plus élégamment que nous. L'anonymat complet nous était interdit à cause du précédent Daft. Dès le début, on était déjà tellement comparé au Daft que c'était une impossibilité en tout cas de faire ça.
On ne cherche pas à se mettre spécifiquement en avant. On a tout fait pour que ça se passe bien, donc on croise les doigts pour que ce soit le cas.
Justice semble avoir trouvé une nouvelle voie entre douceur et rugosité. Hyper Drama, un album qui est en train d'annoncer leur statut de star consacré au sein de l'électronique mondiale.
Et le duo sera en concert le 1er juin au festival Wheel of Green, aux Nuits de Fourvière à Lyon le 17 juin et au festival Beauregard le 4 juillet. Il est 13h27 sur Inter. À suivre, la météo de Sébastien Léa, son sort enfin du gel. Dans la prochaine demi-heure, le rendez-vous mensuel avec la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Christelle.
Et vous allez évoquer un sujet en particulier aujourd'hui.
Oui, parce que nous avons reçu un certain nombre de mails de la part des auditeurs qui se demandent quels sont les défis auxquels nos journalistes à Moscou, Kiev, Jérusalem et dans les territoires occupés sont confrontés lorsqu'ils opèrent dans des zones de conflit ou des pays en guerre. Donc nous serons en direct avec Agathe Mahué, Sylvain Tronchet et Thibault Lefebvre, donc en duplex.
C'est la France avec Clémentine Blondet. Bonjour Clémentine.
Bonjour.
Et vous nous emmenez à Nantes aujourd'hui.
Exactement, on va parler aujourd'hui du printemps joyeux, du hand, du volley et même du hockey sur glace nantais.
C'est une chanson, bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Christelle.
Avec de bons moments.
Eh oui, bons moments, c'est le titre dont nous parlera le rappeur parisien Franglish. Bon moment, c'est un morceau du groupe L'Escadrille qui lui rappelle les vacances joyeuses qu'il passait enfant l'été dans son quartier.
A tout de suite.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au quotidien au service des patients atteints de cancer. Gustave Roussy, l'espoir de guérir le cancer a un nom. Faites un don sur gustaveroussy.fr.
Le 12 août 2022, Salman Rushdie est sauvagement agressé. Pour répondre à cette violence, l'écrivain choisit la littérature. Le couteau de Salman Rushdie, le livre événement aux éditions Gallimard.
le temps de votre après-midi.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Et vous sortez le parapluie aujourd'hui.
Ouais, situation encore instable avec un ciel souvent nuageux et des averses qui vont bourgeonner. Le risque d'averses sera généralisé, mais ce sont la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Pyrénées et les régions allant du nord de la Bretagne et de la Normandie à la vallée de la Garonne qui auront le plus d'averses. Localement, ces averses seront même orageuses, en particulier près de la Côte d'Azur, sur les Cévennes, le quart nord-ouest ou encore entre l'Auvergne et la Bourgogne. Malgré ce temps capricieux, on verra quelques belles éclaircies se dessiner du bassin parisien au massif central et aux Alpes du Nord, également près des Ardennes. L'après-midi sera plus sec sur la façade atlantique, vers le midi toulousain et autour du golfe du Lion, mais c'est en Corse que le ciel sera le plus dégagé et le temps le plus ensoleillé. Et puis depuis hier, une hausse des températures s'est amorcée. Pour cet après-midi, les maximales resteront quand même encore en dessous des normales de saison, mais c'est le dernier jour où les températures resteront sous les valeurs. Effectivement.
C'était long.
Oui, bon, après vous n'allez pas, vu ce qui nous attend pour le week-end, je ne suis pas sûr que vous préfériez pas le fait.
Bon,
on en parlera après si vous voulez. Oui, le radoucissement sera quand même plus sensible sur un large quart nord-est, les températures gagnant 2 à 4 degrés par rapport à hier, comme à Strasbourg où la maximale atteindra 15 degrés cet après-midi alors qu'il faisait à peine 12 degrés hier. Prévoyez également 15 degrés à Lyon, Limoges et à Nantes, 13 degrés pour Lille et Brest, 14 à Rouen, 16 à Marseille, 17 degrés pour Paris, Bordeaux et Toulouse, 18 à Perpignan, jusqu'à 19 degrés à Ajaccio.
Merci Sébastien. France Inter, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Christelle Rebière.
Comme tous les mois, c'est le rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuelle Davier. Vos invités, Emmanuelle, aujourd'hui sont Agathe Mahuet, envoyée spéciale à Kiev, Sylvain Tronchet, correspondant à Moscou, et Thibault Lefebvre, correspondant à Jérusalem et dans les territoires occupés, tous en duplex.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Alors d'abord, au rendez-vous.
D'abord, pourquoi ce rendez-vous, Emmanuel ?
Eh bien, parce que les auditeurs nous écrivent, car ils s'interrogent sur les conditions de travail des correspondants de Radio France à Moscou, Kiev, Jérusalem et dans les territoires occupés. Et ils s'interrogent aussi sur les défis auxquels les journalistes sont confrontés lorsqu'ils travaillent dans des zones de conflit et des pays en guerre.
Et on commence avec la question des risques et de la sécurité.
Oui, alors question d'auditeur, vos journalistes ont-ils déjà été confrontés à des situations dangereuses ou menaçantes pendant leur travail? Comment les ont-ils gérées? On commence avec Agathe Mahuet, donc à Kiev.
Alors, il y a forcément des situations dangereuses dans un pays en guerre, hein, mais d'abord, on est préparé à ça, avec une formation spécifique que l'on doit suivre avant de partir. À Radio France, on apprend les bons réflexes, disons. On se forme aux gestes de secours, si l'un de nos camarades sur le terrain était blessé, ou nous-mêmes. Et puis, on se déplace toujours avec un gilet pare-balles et un casque. Alors, pas à Kiev, pas partout, mais si on va, par exemple, dans un village où l'on sait qu'il y a des bombardements. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, dans la région de Kharkiv, près de la frontière, un officier de presse de l'armée ukrainienne donc nous a proposé de le suivre dans un endroit qui était sensible, mais en nous demandant de ne pas porter de gilet et de casque pour ne pas être trop repérable, ne pas être une cible, parce qu'à cet endroit-là, nous aurions été vraiment à portée de drones russes. On était à quelques kilomètres seulement de la frontière. Et après réflexion collective avec mes camarades techniciens de reportage et fixeurs, traducteurs, on a décidé de ne pas le suivre, de ne pas prendre ce risque sans gilet. On a estimé que ça n'en valait pas la peine. On le sentait pas, en gros. Et parfois, ne pas se mettre en danger, ça peut vouloir dire renoncer à un reportage. Ça peut arriver.
Sylvain Tronchet, en Russie, êtes-vous confronté à des situations dangereuses ou menaçantes ?
Alors ici, la situation est un peu différente qu'en Ukraine, puisque dans les faits, on n'a plus accès à la ligne de front ou disons aux zones de guerre. Il nous est en plus impossible de parler avec des soldats russes, par exemple, comme le fait Agathe. Cela a été un peu possible au début de la guerre, dans des conditions très encadrées par l'armée russe. Je suis allé une fois jusqu'à la centrale de Zaporijjia avec l'armée russe, dans des conditions très particulières, donc on l'avait raconté sur les antennes de Radio France. Mais depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, ça n'est plus possible. Alors ceci dit, je suis quand même allé en Ukraine occupée, à Mariupol, en Crimée ou à Belgorod, la ville russe qui est régulièrement visée par des roquettes ou des drones ukrainiens. Forcément, ça implique là aussi une part de risque. J'ai connu aussi quelques alertes aériennes. J'ai vu à Mariupol un missile nous passer au-dessus de la tête. Mais je dirais que les risques restent raisonnables. On essaye en tout cas de les limiter au maximum. Après, il y a d'autres risques en Russie qui concernent plus le cadre légal, les services de sécurité dont on pourra parler.
Thibault Lefebvre, en Israël, donc des auditeurs souhaiteraient savoir comment vous assurez votre sécurité dans des zones sensibles.
Bah, ça va recouper un petit peu ce que disait Agathe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la dimension matérielle, on emporte avec nous, et surtout pour chaque membre de l'équipe, hein, quand on est accompagné d'un technicien ou d'un fixeur, un gilet pare-balles, un casque et puis une trousse de premier secours. Il y a une autre dimension très importante aussi, c'est la dimension préparatoire, c'est-à-dire que quand on se rend sur un terrain potentiellement dangereux, eh bien on analyse en amont la cartographie à partir de sources qu'on a mis de côté par expérience. Je pense par exemple à l'Institut de la guerre, aux États-Unis en ce qui concerne l'Ukraine, qui propose des mises à jour régulières. En Israël, c'est plutôt l'INSS. Et puis, une autre dimension, c'est qu'on se parle beaucoup. Il y a beaucoup de solidarité entre journalistes, entre humanitaires, les membres des Nations Unies. En fait, toutes ces personnes qui se rendent régulièrement sur une zone qu'on projette de couvrir. Et puis, ça permet surtout d'avoir les dernières informations sur des situations qui sont très mouvantes. Et puis, il y a aussi sur le terrain, on met en place des protocoles, ce sont des règles. Agathe vous disait qu'elle a décidé avec toute son équipe de reculer sur un récent reportage. Et ben c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de droit de veto pour un technicien, un fixeur ou un journaliste. S'il y en a un qui a un mauvais pressentiment, et ben on l'écoute et puis on réadapte la mission. Et puis enfin, peut-être une dernière règle, c'est qu'on reste vraiment peu de temps, en tout cas le moins de temps possible sur une ligne de front ou sur un terrain compliqué. On travaille vite, on travaille par rapport à des besoins qui ont été identifiés en amont, et ça nécessite donc peut-être plus de précision dans le choix des angles, dans le choix des interlocuteurs. Ça laisse moins de place, en tout cas, à l'aléa que sur des terrains qui sont moins hostiles.
Avez-vous déjà ressenti la peur en reportage? Avez-vous été en danger? C'est une question posée par les auditeurs à Thibault Lefebvre et Agathe Mahué. On commence avec vous, Thibault.
Oui, enfin, évidemment, je dirais même que le contraire, le fait de prétendre ne pas ressentir la peur serait plutôt inquiétant. Juste un exemple, ma dernière peur, c'était le 7 octobre, le jour du massacre, quand en fait on est parti avec un collègue dans des zones où il y avait encore des combats, c'était confus, il y avait des infiltrés, il n'y a pas de ligne de front établie, et en fait dans ces situations, comme je vous le disais précédemment, on peut pas se référer à des cartes ou à des collègues qui sont allés précédemment là, puisque c'est un événement inédit. Eh bien, il y a que la peur qui peut dicter les décisions. C'est par exemple, je sais pas, pour prendre une bonne décision, le choix d'une route, est-ce qu'on prend à droite et à gauche, est-ce qu'on reste longtemps sur un terrain, est-ce qu'on part. Donc il y a quelque chose d'assez animal, d'assez instinctif. Faut juste écouter sa peur, faire en sorte qu'elle ne nous paralyse pas et qu'on l'utilise comme un outil, un indicateur pour prendre les bonnes décisions.
Agathe, avez-vous été en danger en Ukraine? Avez-vous déjà eu peur sur le terrain?
Oui, ben un peu comme le disait Thibault, je crois que c'est normal d'avoir peur. Il faut pas que ça vous bloque, effectivement, sinon on ne fait plus rien et on renonce à tout. Parfois, on prend un certain risque quand même. Encore une fois, je crois qu'il faut le sentir. Moi, je dirais que j'ai eu peur à Bakhmout en décembre 2022, quand la ville était sous le feu de l'armée russe. Enfin, c'est toujours plus ou moins le cas, mais c'était vraiment important à ce moment-là, encore possible, surtout pour nous, d'aller à la rencontre de ces centaines de civils qui vivaient encore dans la ville en sous-sol, dans les caves de leurs immeubles. On a fait vite parce que ça tapait tout autour. C'était des booms quasiment en continu. On s'est concentré sur notre mission et on est reparti sans trop traîner. C'est un peu effectivement la règle à respecter quand c'est comme ça.
Et l'accès à l'information en zone de guerre suscite aussi beaucoup de questionnements chez les auditeurs, Emmanuel.
Oui, Thibault Lefebvre, quelle est la fiabilité de vos sources d'informations sur le terrain? Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, de nombreux auditeurs s'étonnent de l'emploi de la formule « selon le Hamas » lorsqu'il s'agit de donner des bilans chiffrés du nombre de morts. Je vous lis un message parmi tous ceux que nous avons reçus à ce sujet. Pourquoi donnez-vous le nombre de morts dans la bande de Gaza suivi de la mention « selon le Hamas » Peut-on diffuser des informations fiables et vérifiées venant d'une telle organisation? Merci de m'expliquer pourquoi. Pourquoi nous écrit cet auditeur ?
Écoutez, pour répondre, je pense qu'il est important déjà de donner une idée aux auditeurs à l'antenne de l'ampleur du désastre qui se déroule sous nos yeux. Alors, les bilans humains chiffrés, ce sont des outils froids, mais ce sont des outils d'évaluation majeurs. Alors, on évoque ces bilans et systématiquement, vous l'avez dit, on mentionne la source. C'est donc pour cette raison que vous entendez régulièrement les chiffres, en tout cas qui viennent de la bande de Gaza, suivi de la mention, selon le ministère de la Santé de Gaza, liée au Hamas. Alors, il faut que vous sachiez, pour entrer dans le détail, qu'une fois ces chiffres publiés à Gaza, ils sont vérifiés par l'autorité palestinienne, qui est elle dirigée par un parti laïque, par le Fatah, et qui est reconnue par la communauté internationale. Et en fait, c'est l'autorité palestinienne qui est chargée d'indemniser les familles des victimes. Et ce que nous remarquons depuis un peu plus de 6 mois de conflit, c'est que les chiffres du Hamas et de l'autorité palestinienne sont sensiblement les mêmes. Il y a un troisième acteur, je passe rapidement, ce sont les Nations Unies qui ont aussi leur propre méthodologie, avec notamment leur agence OCHA. Et là aussi, les évaluations sont sensiblement les mêmes. Donc, pour que les auditeurs comprennent bien, ces bilans, les bilans que vous entendez, qui sont régulièrement mis à jour, sont crédibles. Cette guerre est en cours, elle n'est pas terminée. Ces chiffres doivent être solidifiés, ils vont l'être au fur et à mesure. Et il se peut même que le bilan soit bien plus lourd que ce que l'on mentionne à l'antenne, parce que, pour avoir parlé à de nombreux experts militaires, des corps gisent encore sous les décombres à Gaza, et alors que le territoire est détruit à plus de 50%.
Question pour Agathe Mahé. Y a-t-il des sujets difficiles ou impossibles à traiter, vous demande une auditrice.
Alors, en Ukraine, je dirais qu'il y a des sujets plus ou moins tabou, par exemple depuis qu'il est question d'élargir la mobilisation dans le pays, d'inclure des hommes plus jeunes, dès 25 ans. On a souvent eu à aborder cette question-là lors de reportages avec de jeunes hommes que l'on croise en ville, par exemple, qui travaillent à l'arrière plutôt que d'être combattants au front. Et certains nous ont dit non, je veux pas parler de ça, je ne préfère pas, parce que oui, il peut y avoir une forme de culpabilité. Donc ça a été pas toujours simple de collecter des témoignages sur cet aspect-là, mais je ne vois pas de sujet impossible à traiter pour autant. Et de façon générale, au contraire, les Ukrainiens nous parlent plutôt très facilement.
Et y a-t-il un contrôle de votre travail de la part de l'État ukrainien, de l'armée, sur ce que vous faites, sur ce que vous diffusez? Est-ce que vous travaillez librement?
Non, pas de contrôle. Oui, on travaille vraiment librement, sans problème. La seule chose qu'il faut obtenir en Ukraine quand on vient travailler comme journaliste, c'est un de laisser passer pour les checkpoints militaires, une carte de presse en fait. Rien de compliqué d'ailleurs pour l'obtenir. Et ensuite, non, il n'y a pas de contrôle de la part de l'État ou de l'armée sur notre travail. Et on a toujours diffusé complètement librement tout ce que l'on voulait.
Oui, et Sylvain Tronchet, c'est un peu la même question. Un auditeur souhaiterait savoir si vous êtes empêché de faire certains reportages par les autorités russes.
Alors, sur le papier, non. C'est-à-dire que j'ai une accréditation du ministère des Affaires étrangères russe qui m'autorise à faire du reportage sur l'ensemble du territoire russe. Et pour Moscou, par exemple, les régions annexées d'Ukraine, c'est la Russie. Hein, donc c'est pour ça que j'ai pu m'y rendre librement, y travailler sans être accompagné. Sur le fond, je raconte ce que je veux, au sens où je n'ai jamais eu de retour, de demande de censure ou de pression directe. Voilà. Ceci dit, une fois que j'ai dit ça, il faut bien considérer qu'on est en Russie. Contrairement à l'Ukraine, la parole n'y est pas toujours libre, loin de là. On a beaucoup de mal à trouver des gens qui sont prêts à parler librement de politique, de la guerre, surtout évidemment s'ils sont opposés au pouvoir. On en trouve, mais c'est compliqué. Et puis, il y a ce qui n'est pas écrit sur le papier. C'est-à-dire qu'en clair, il y a des sujets qui sont impossible ou quasi impossible à traiter. C'est en gros tout ce qui concerne l'armée, le complexe militaro-industriel. Approcher les familles de soldats tués, c'est extrêmement compliqué, extrêmement risqué. Par exemple, alors on a entendu sur l'antenne de Radio France, l'antenne d'Inter, des femmes de mobilisées qui manifestaient sur la place Rouge. J'ai fait ce reportage et puis la semaine d'après, lorsqu'elles ont de nouveau manifesté, plusieurs journalistes ont été arrêtés, dont des journalistes étrangers. Ils ont été relâchés, mais c'est un signal, hein, c'est clair, tout comme a été un signal encore plus brutal l'emprisonnement d'un de nos confrères américains, Ivan Gershkovitch, hein, qui est actuellement en prison, accusé d'espionnage. Et puis bon, on a tous, il faut bien le dire, plus ou moins fait l'objet de surveillance, plus ou moins discrète, qui visait parfois d'ailleurs à nous empêcher de travailler, hein, sur certains reportages. Nos visas en plus sont renouvelés tous les 3 mois dorénavant, ce qui est aussi une forme de pression supplémentaire.
Et pourquoi, dans le contexte de verrouillage de l'information en Russie, on vous laisse malgré tout continuer à travailler dans ce pays ?
Alors ça, c'est une grande question, on me la pose souvent, elle est très légitime, effectivement. Hein. Pourquoi, dans ce contexte de censure et de répression en Russie, où il n'y a plus un seul journaliste indépendant, pourquoi le pouvoir autorise malgré tout la présence de quelques correspondants étrangers? J'ai pas de réponse fiable à 100%, mais d'abord, il faut savoir qu'il y a toujours eu des correspondants dans ce pays, même sous Staline. Ensuite, dans mon cas, par exemple, je parle à des auditeurs francophones en France, et donc on peut estimer que de ce point de vue, je représente un enjeu faible pour le pouvoir russe, qui peut en plus continuer à affirmer, comme il le fait, hein, que la presse est libre en Russie, puisque nous sommes là précisément, ils ne s'en privent pas. Hein. Et puis, il y a toujours des correspondants russes en France, donc la Russie sait que si elle veut qu'ils puissent rester, il faut que ce soit réciproque. Enfin, il est malgré tout aussi de l'intérêt de la Russie d'avoir des correspondants étrangers sur son sol, ne serait-ce que parce que nous sommes aussi des relais pour le discours du pouvoir, hein, en ce sens que nous racontons ce qui se passe ici, de façon probablement plus fiable que si on le faisait à distance. Ça évite parfois les biais d'interprétation. Et puis, les médias russes sont très forts pour reprendre quand ça les arrange nos reportages. Par exemple, quand je suis allé à Mariupol, j'ai raconté que la ville était devenue un immense chantier, très impressionnant, ce qui m'a valu quelques articles de reprise dans la presse russe où on disait « Ah, le journaliste français a trouvé que le chantier était très impressionnant », tout en oubliant que, dans le même temps, je parlais des destructions, de la propagande, des cimetières ou du désarroi d'une grande partie de la population.
Thibault Lefèvre, maintenant, c'est la dernière question, une question assez cruciale pour les auditeurs. Comment vous assurez-vous de présenter les faits de manière équilibrée dans cette guerre entre Israël et le Hamas ?
Je serais assez cash, assez radical. C'est-à-dire que pour moi, il est impossible d'être équilibré sur chacun des reportages ou sur chacune des analyses que nous proposons à l'antenne. Vaut mieux, en tout cas, c'est ce que je fais des choix clairs, j'essaie de traiter en profondeur un angle, que ce soit par exemple les conséquences de la guerre à Gaza ou de l'autre côté, du côté israélien, sur les traumatismes de cette société après les massacres, le massacre du 7 octobre. En fait, l'idée, c'est de ne pas se sentir contraint de donner la parole systématiquement aux deux camps dans chaque élément proposé. En fait, l'équilibre doit se faire sur le traitement global de l'événement, sur le long terme, pour faire en sorte que ce soit la somme des reportages ou des analyses qui permettent aux auditeurs d'avoir un regard équilibré, un regard honnête sur la situation. Donc je vous dirais qu'il est très difficile d'être objectif, que nous aussi nous sommes des médiateurs entre le terrain, les terrains qu'on couvre et les auditeurs, que nous avons une sensibilité, qu'on a des goûts, qu'on a un prisme lié tout simplement à ce que nous sommes. En revanche, il est essentiel d'être honnête et surtout d'éviter de se laisser submerger par l'air du temps ou par l'émotion du moment.
Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de répondre aux questions des auditeurs. En direct donc de Moscou, Kiev et Jérusalem et les territoires occupés.
Voilà, vous pouvez couper votre téléphone. Merci Emmanuel, rendez-vous le mois prochain. Suite et fin de notre feuilleton au fil de la Seine, le fleuve qui se prépare à accueillir les Jeux Olympiques et la Seine reine des festivités, eh bien ce n'est pas nouveau. Le fleuve parisien était déjà un haut lieu de sport et de fête au milieu du XVIIIe siècle. Emma Sarango s'est promenée le long des quais avec Isabelle Bacouche, historienne. Elle a écrit une thèse sur les relations entre Paris et la Seine.
La Seine au XVIIIe siècle, c'est un espace dégagé dans une ville qui est encore la ville du Moyen-Âge, hein, avant Haussmann. La Seine, c'est le lieu où on peut rassembler le maximum de gens pour des festivités. Celles qui sont fréquentes et qui attirent beaucoup de monde, et là encore toute la société, c'est les feux d'artifice, qui sont donnés en général par le bureau de la ville, qui est dirigé par le prévôt des marchands. Hein, le plus célèbre, c'est Étienne Marcel, dont il y a la statue à côté de l'hôtel de ville, qui regarde le fleuve d'ailleurs. Et donc, le prévôt des marchands veut honorer la monarchie, alors soit pour une naissance, soit un mariage, soit une victoire. On fait venir donc des artificiers, qui étaient des professionnels, qui s'installent à proximité du fleuve. La ville était quand même majoritairement en bois. Hein. Donc sur le fleuve, s'il y a un pépin avec des étincelles ou le feu, c'est quand même plus sécurisé. Et puis, deuxième activité qui se rapproche du sport, c'est les joutes sur l'eau. Chaque quartier avait une équipe avec une embarcation pour arriver à déterminer celui qui l'emporterait dans des concours qui s'échelonnaient sur plusieurs semaines. Il y a un tableau très célèbre de Raguenet qui montre une joute avec ses embarcations au pied du pont Notre-Dame. Voilà, la Seine, c'était le lieu de rassemblement aussi pour des réjouissances à diverses occasions. Cette organisation qui datait du Moyen-Âge Au XVIIIe siècle, elle commence à être saturée parce que tout simplement, il y a de plus en plus d'habitants à Paris. On décide de faire de la Seine un moyen de navigation, un fleuve sur lequel les bateaux doivent passer librement. Il faut donc dégager toutes les installations. Par exemple, les joutes, hein, il fallait s'échelonner sur plusieurs semaines. Et on ne pouvait pas se permettre d'immobiliser la circulation fluviale au prétexte qu'il y avait des joutes. Tout ce qui était activité urbaine et sédentaire a été progressivement chassé. À partir du début du XXe siècle, jusque, me semble-t-il, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des épreuves sportives qui sont la traversée de Paris à la nage. C'est lancé à peu près au même moment que le Tour de France, au tout début du XXe siècle. Il y avait des plongeons depuis les ponts. Quand on regarde les photos, il y avait un monde fou qui assistait à tout ça. Alors voilà, après, quand on a installé les voies sur berge, à la fin des années 60, donc ça a été quand même le coup fatal. Fréquenter le fleuve avec des voitures qui roulaient à l'époque, je ne sais pas, c'était 70 ou 80 à l'heure, c'était quand même très dissuasif. Donc là, on est en train, on va dire, d'essayer de retisser des liens entre les Parisiens et la Seine. Depuis une vingtaine d'années, depuis Paris-Plage, depuis la piétonnisation des voies sur berge, c'est-à-dire la disparition des voitures, ça va être long, mais ça, je veux dire, c'est pas parce que les décisions sont lentes, c'est parce que c'est très long de retourner les comportements. L'historien le montre toujours, il y a une inertie qui est importante. Quand j'ai entendu que la cérémonie aurait lieu sur la Seine, ça m'a fait sourire intérieurement. Évidemment, je suis convaincue que tous les gens qui ont pris cette décision ne sont pas au courant de l'histoire. Mais ça montre ce lien très très fort entre Paris et la Seine. Si on compare la Seine et Paris avec d'autres capitales, que ce soit Rome ou Londres, le fleuve est à taille humaine. Le fleuve fait partie de la vie urbaine. Et il fait partie de la vie urbaine en raison de toutes ces activités humaines qui étaient installées pendant des siècles. Cette familiarité avec le fleuve qui va rejouer au moment de la cérémonie d'ouverture.
Une semaine dans leur vie, signée cette semaine Emma Sarango avec Stéphane Ronxin à la réalisation.
France Inter, le 13-14.
C'est la France avec Clémentine Blondet du journal L'Équipe. Vous avez choisi, Clémentine, de faire un focus sur Nantes, une ville de sport et en particulier de sport de balle.
C'est ça, Christelle. Les amateurs de musique classique connaissent Nantes pour sa folle journée.
Oui.
Et depuis début février, c'est un peu comme si ses concerts se poursuivaient en ayant quitté les salles pour les enceintes sportives. Ceux qui nous écoutent et qui feuillettent aussi régulièrement L'Équipe ont pu remarquer que les clubs de la ville de Loire-Atlantique revenaient régulièrement au fil des pages. On y trouve toujours, bien sûr, le FC Nantes, 8 fois champion de France de foot, même si l'actuel 14e de Ligue 1 brille moins que par le passé. Mais les Canaries ne sont plus les seuls Nantais à faire l'actualité. Les Corsaires ont remporté le week-end dernier le championnat de 2e division de hockey sur glace. Et cette semaine, les Nantais se relaient. Les handballeurs du HBC se sont d'abord offerts le week-end dernier une 2e Coupe de France d'affilée en écœurant le PSG et ont maintenu mardi leur chance d'un Final Four européen en faisant match nul face à Berlin. Puis les volleyeuses en finale du championnat de France face à Levallois, qui peuvent encore espérer être titrées ce soir si elles inversent la tendance.
Autant de clubs nantais dans la lumière, peut-il seulement s'agir d'une coïncidence ?
Pas vraiment, Christelle, particulièrement pour les clubs de handball et de volley féminin qui portent le même nom depuis 2021, les Neptunes, en hommage à la devise de la ville. Neptune favorise ceux qui osent. Et le dieu romain de la mer semble en effet accorder ses faveurs à ce projet original. Au-delà de se partager leur salle de Mangin-Beaulieu, handballeuses et volleyeuses sont chapeautées par la même holding, un groupe immobilier qui a investi. Avec 4,1 millions d'euros, le hand est le 3e budget de son championnat, le volley le 2e avec 2,2 millions d'euros. L'événementiel, l'administratif, la communication et le médical ont été mutualisés, les structures professionnalisées. Je n'ai jamais vu un club qui mette autant les femmes en avant, ont répété cette saison Amandine Giardino, la volleyeuse capitaine de Nantes, et Tamara Horacek, son homologue du hand.
Mais la synergie entre les clubs nantais ne se résume pas à ces Neptunes.
Elle ne se résume pas à ça exactement, Christelle. C'est ensemble que les Neptunes version volley et aussi le club masculin de Nantes-Rezé ont été honorés la semaine dernière à l'hôtel de ville de Nantes après avoir tous les deux remporté la Coupe de France fin mars à Paris. Thierry Rose, président du club de volley masculin, assurait à cette occasion à Ouest France que les deux clubs avaient plus qu'une ligne de palmarès en commun et que leur bonne entente créait une vraie émulation au niveau sportif.
La cité des Ducs peut se permettre une telle densité de clubs de haut niveau. On n'a pas encore cité le Nantes Basket Hermine, oui. Le club de basket masculin, qui est en ce moment 13e de Pro B. Elle possède les infrastructures idoine. 5400 places pour le Palais des Sports de Beaulieu, 4200 pour la salle sportive métropolitaine à Rezé, 2400 pour Mangin-Beaulieu. S'appuyer sur le sport et la culture pour rayonner et bénéficier des retombées économiques, c'est la stratégie de l'agglomération, que ce soit en soutenant le sport de haut niveau ou les grands événements culturels, comme la Folle Journée, on y revient. Oui. Et Nantes pourrait bien faire vivre dans les années qui viennent aux amateurs de sport de nouvelles folles soirées.
C'est sans compter aussi sur Saint-Nazaire qui pourrait devenir champion de France de volley dès dimanche. Merci de C'est la France, c'est une chanson. C'est le rappeur parisien Franglish que l'on retrouve à votre micro aujourd'hui, Frédéric Pommier.
Franglish qui a récemment sorti Prime, son 4e album, quelques jours après un concert à Bercy plein à craquer. Il sera de nouveau sur scène lundi à La Cigale. Et c'est d'une chanson du groupe de hip-hop, L'Escadrille, qu'il a souhaité parler. Chanson qu'il a beaucoup écoutée avec ses copains quand il vivait dans la cité de son enfance, à Paris, dans le 20e, sachant que chez lui, à l'époque, il y avait tous les genres de musique.
Il y avait vraiment de tout. Il y avait du rap, il y avait de la R&B, quand c'était ma sœur ou mon frère qui en écoutait. Il y avait du zouk, il y avait de la variette. Si je me trompe pas, ma mère a écouté beaucoup. Je crois que c'était Lara Fabian. Après, il y avait du Michael Jackson aussi. Ça, c'est ce qui m'a marqué aussi. Et après, en grandissant, je me suis penché un peu plus sur le rap français. Et période de vacances, je tombe sur ce son. L'Escadrille, les bons moments.
Il y a aussi des bons moments dans la piscine.
Waouh. Ah ouais, c'est trop bien.
Je me sens dans mon élément, ouais. Car en vrai, en gaulerie plus qu'on pleure. La Tessie, c'est ami, mais on vit plus qu'on meurt. Partout pareil, chez moi, c'est bien quelque part. Mais y'a pas de foot en salle, car y'a pas de salle à Guelphard. Notre seul sport, y'a les stars, top départ. Le cul sur un banc, on se tape des bars. Laisse-moi appeler, paye ta canette, roule un spa.
Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson?
On va dire que ça raconte le bon côté de l'esprit du quartier. Et on peut passer des vacances au quartier, passer des bêtes de vacances, vraiment. Où il y a le respect, il y a l'amour, il y a le barbecue, on rigole, on joue. Après, ça va un peu à la piscine dès qu'on peut, une petite activité. On est posé, chacun se raconte des histoires, chacun se chambre, on mange, on se revoit le lendemain, on est posé sur le banc, on rêve. En fait, on parle de plus tard, on fera tel ou tel truc, ou bientôt avec le travail, on ira là-bas. On se motive, on fait plein de choses. Et ça, c'est des moments qui m'ont marqué. Et ce son-là tournait beaucoup.
Bah, vous étiez adolescent ?
J'étais au collège à ce moment-là, je devais être, je pense... 5e ou en 4e. Mais ce son-là vraiment me rappelle mes plus belles vacances quand on était petit. Ouais. Les vacances au quartier dans le 20e. Dans un espèce de grand parc où il y a un terrain de foot, un terrain de basket. Les mamans, elles parlent entre elles. Des fois, elles jouent avec nous. T'as les mamans à côté aussi qui faisaient des glaces. Différents goûts. Le mien, c'était le goût coca aussi. J'aime bien celui-là. Ou l'orange. C'est le genre de petit Mister Freeze, mais fait par les mamans du quartier. Et ça, franchement, c'était trop bien. À chaque fois, je devais remonter, redemander 1 euro à maman. Après, je redescends. Après, je redemande encore 1 euro. Au final, je pense que j'ai dû donner au moins 5 ou 6 euros, je pense, d'un coup, comme ça. Et franchement, ouais, c'était bien.
Je suis dans mon élément, ma ghetto-réalité. C'est tellement chose, pas moi de l'expliquer. Ici, les vibes sont trop bonnes. Je suis dans mon petit, donc laisse-moi, ça me fait kiffer. Je suis dans mon élément, ma ghetto-réalité. C'est tellement chose, comment t'expliquer. Ici, les vibes sont trop bonnes.
Et c'est en 2006 qu'est sorti ce morceau, Frédéric, sur le premier album du groupe L'Escadrille.
Album intitulé Nos Vies. Et on l'a entendu, pour Franglish, eh bien, cette chanson raconte un peu sa vie, loin des clichés qu'on peut avoir parfois sur les quartiers.
J'ai l'impression que quand on parle de quartier directement, c'est négatif, c'est la police, c'est la drogue, c'est ci, c'est ça, sauf que pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout ça en fait. C'est plein d'humains intelligents, plein d'humains qui veulent réussir, qui veulent rendre fiers leurs parents, qui veulent connaître leur histoire, qui veulent s'amuser, qui veulent vivre, qui veulent voyager, qui veulent connaître le monde. Et après, il y en a malheureusement qui vont mal tourner, etc. Mais de base, nous, quand on nous dit le quartier, pour nous, c'est pas négatif.
Vous disiez tout à l'heure, dans ces quartiers-là, il y a des jeunes dont le principal objectif, c'est de rendre fiers leurs parents.
Ouais.
Vous, aujourd'hui, vous avez cette impression-là ?
J'espère bien. Après, de ce que je ressens, j'ai l'impression que oui, j'ai réussi à les rendre fiers. Et ça, c'est la plus belle victoire. D'avoir son père qui a des étoiles dans les yeux quand il te regarde, qui te fait des gros câlins, qui est fier de toi. C'est mieux qu'un disque d'or ou un disque de platine ou une salle remplie.
La Tessie amène aussi de bons moments. Pas grand chose pour être heureux. Car le bonheur est dans les choses simples. Ça, qu'on n'est pas des malheureux.
malheureusement, y'a que le négatif que retiennent les gens.
Devant l'autre quand ça charrie mal.
Pas besoin de grand chose pour être heureux, car le bonheur est dans les choses simples.
Zinc, on n'est pas des malheureux.
Y'a que le négatif que retiennent les gens. La Tessie amène aussi de bons moments. Pas besoin de grand chose pour être heureux, car le bonheur est dans les choses simples.
Zinc, on n'est pas des malheureux.
Y'a que le négatif que retiennent les gens.
La chanson elle s'appelle Les bons moments. Vous aujourd'hui, si vous deviez lister une série de bons moments,
je dirais mon mariage, quand je suis devenu père, mes victoires dans la musique, que ce soit mes certifications ou mes zéniths de Paris, Olympia ou Bercy, et la fierté de ma famille. Ces bons moments-là surtout, je dirais cela. Quand toute ta famille est fière de toi, que ce soit ta femme, tes enfants, qui viennent et qui disent « Ah, c'était trop bien ce que t'as fait, je suis trop content », et qui te fassent un bisou et que ta femme dit « Je suis fier de toi, t'as tout tué, c'était génial », c'est la meilleure des sensations.
Bon moment, l'escadrille. C'était donc Frédéric, le choix du rappeur Franglish.
Franglish qui sera en concert lundi à La Cigale et qui vient d'annoncer deux nouvelles dates parisiennes les 11 et 12 avril 2025 à l'Accor Arena Bercy.
Merci Frédéric. Un lundi à suivre après 14h, le Club de la Terre au Carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Christelle Rebière.
Au programme.
Une histoire d'urgence climatique, un jeune engagé et de la photographie sous-marine.
À tout à l'heure.